Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les vacances sont finies et chacun a repris le chemin. Des écrans, 4h38 par jour en moyenne pour les Français, rien que pour Internet. Mon invité de ce matin appelle ça l'écranisation des esprits, un prolongement du mantra libéral de notre société, nous poussant à l'envie de son monde dans ce monde virtuel. Fort lucratif. À le lire, nous serions en train, sans nous en rendre compte, de muter, si je puis dire, de devenir des hommes et des femmes qui, pour aimer, travailler, se rencontrer, ne peuvent plus se passer des écrans. Pourquoi Dieu serait si grave ? Être libre à l'heure du monde des écrans, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec vous, Tanguy-Marie Poulquien.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et auteur de nombreux ouvrages, et le dernier paru donc est « Hyper connecté et libre », avec ce sous-titre « Bien vivre à l'ère du numérique sans retourner à hashtag l'âge de pierre », paru aux éditions des Béatitudes. Ravi de vous recevoir pour ce livre, on va dire, roboratif, qui certainement peut se lire à la fois on va dire en continu ou alors on peut picorer dedans avec de nombreuses illustrations et d'éléments pratiques et une longue bibliographie. Alors on va se plonger dedans. Ma première question pour ceux qui vous connaissent un tout petit peu ou en tout cas je ne l'ai pas dit, vous êtes prêtre pardon aussi et religieux de la communauté des Béatitudes. On se dit, de quoi se mêle-t-il ? Depuis quand les religieux sont au courant du monde des GAFA et autres ? Qu'est-ce que vous répondriez au début de cette émission ?
Bah, d'abord, pourquoi pas, hein ? D'abord, le religieux, c'est bien celui qui a la vocation de relier, et donc de relier pas simplement les âmes à Dieu, mais de relier les hommes dans un vivre ensemble de qualité au service du bien commun et de la communion. C'est ça la vocation intrinsèque du religieux. Ce qui m'a mis en alerte, c'est une rencontre il y a quelques années, au plan strictement religieux, de la prégnance des écrans dans la cellule des religieux. C'est-à-dire que l'Internet, les écrans, le monde numérique est rentré dans la cellule des religieux, des moines, avec tout l'impact d'une culture qui n'ouvre pas nécessairement au culte et à la transcendance de Dieu. Donc il y a, si c'est rentré chez les religieux, c'est que c'est rentré partout. C'était ma déduction et mon point de départ. Et mon intuition de départ, c'est vraiment confirmé. Les écrans sont rentrés partout dans notre vie quotidienne, dans tout l'espace public, mais aussi privé.
Alors, on va tout de suite parler du vif du sujet. Je le dis aussi à votre place, vous payez pas de mots parce que votre livre, évidemment, est le fruit d'un gros travail. Mais vous êtes même allé dans la Silicon Valley voir le monde des GAFA lors d'un voyage aux États-Unis il y a quelques temps. Vous racontez aussi qu'il vous arrive d'aller en Chine régulièrement et que là-bas, vous avez découvert que les Chinois étaient aussi, voire encore plus que nous, au diapason des écrans.
Encore plus.
Commençons par quelques chiffres qui assomment. Il y en a quelques-uns, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ils vont peut-être tomber de leur chaise. Pour ceux qui sont habitués, ils vont se reconnaître et se sentir peut-être mal à l'aise, quoique, pas forcément. Ce premier chiffre, je le citais ce matin, 6h42, c'est le temps moyen que passe un internaute dans le monde quotidiennement sur Internet. Et je dis bien uniquement sur Internet. Vous dites que les Français sont beaucoup plus raisonnables avec seulement 4h38. Ça veut dire quoi, Tanguy-Marie Poulquien ? Si on cumule Internet, le smartphone, la télé... En fait, c'est quoi ? C'est combien d'heures par jour ?
8h30, 9h par jour devant un écran.
Alors, si vous deviez un peu détailler, ça donne quoi pour les Français comme habitude, en fait ?
Ça donne qu'on a l'habitude, par exemple, si on prend quelqu'un qui travaille, c'est au moins 4-5 heures devant un écran. Donc on intègre aussi cette variable, cette posture devant l'écran à l'intérieur du monde professionnel. Et après, c'est les réseaux sociaux, c'est la télévision, c'est la tablette, c'est le jeu vidéo, voilà. Et donc le cumul, alors bien sûr, après ça dépend des classes d'âge. Hein. Quand on a 90 ans, on joue pas aux jeux vidéo, mais on est quand même très, 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 très connecté.
Alors, juste très connecté, si on s'arrête encore un tout petit peu, vous citez par exemple des chiffres à propos des réseaux sociaux ou de l'usage qu'on peut faire de son téléphone portable. Vous dites entre autres qu'il y aurait presque 40% des personnes qui dormiraient avec leur téléphone portable, c'est ça ?
Alors, effectivement, ça s'inscrit dans un chiffre un peu plus large, c'est que 9 personnes sur 10, puisque le taux de pénétration du smartphone dans la société française est largement supérieur à 90%. Donc ça veut dire qu'en gros, 9 personnes sur 10 dorment avec le smartphone dans la chambre et 4 sur 10 dans le lit.
Donc ça, c'est l'ensemble des Français, c'est pas que les jeunes.
Non, c'est l'ensemble des Français. Donc ça veut dire que le smartphone devient un doudou et on devient le toutou. Et puis voilà, ou la nounou du smartphone. Quoi, voilà.
L'autre chiffre que vous citez, c'est pour, je ne sais pas alors, si ça concerne la génération E, c'est ça où vous dites la jeune génération comment
La
vous
génération, c'est la génération Z, hein, ou la génération C. C'est la génération hyper connectée, le C, connectivité, communication.
Alors elle, vous donnez un chiffre, mais là, je n'arrive pas à le retrouver, qui laisse entendre que le premier réflexe pour une bonne partie d'entre eux, c'est dès qu'ils se réveillent, voilà. C'est regarder le téléphone portable. Est-ce que j'ai eu un message ?
Oui, c'est ça. C'est un chiffre qu'il faut mettre en perspective, on pourrait dire nocturne, voilà, parce que c'est la nuit. Voilà. Vous avez par exemple les ados, vous avez 20% des ados, un ado sur 5 qui est réveillé la nuit à cause d'une notification. Voilà. Ça veut dire que et alors bon, en soi, bah, pourquoi pas si c'est important, mais c'est rarement important, mais c'est l'impact sur le sommeil. Vous avez 42% des ados qui ne dorment pas assez. Et d'en passer à cause du numérique. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact de l'hyperconnectivité sur la personne dans son ensemble. Et c'est ça qui a été le fil transversal de mon livre, c'est comment une hyperconnexion, qui en soi n'est pas en soi négatif, hein, parce que la technique... C'est le prolongement de cette capacité de l'homme de créer et de gérer la création. Donc en soi, la connexion, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui est un problème, c'est la posture que l'on va avoir devant cette connexion, devant cette hyper-connexion. Et ça, bien sûr, ça fragmente le corps, ça nous disperse l'esprit, ça nous fatigue. Ça, je pense qu'on en fait tous l'expérience. Mais à un moment, il faut dire... Stop, ce n'est pas au smartphone de me mener, c'est à moi de mener mon smartphone, de m'en servir comme un outil. Et aujourd'hui, la zone entre le smartphone qui devient un outil ou le smartphone qui devient un doudou ou un meneur, c'est flou.
C'est
cette zone flottante qui est inquiétante, pour une part, parce qu'elle endort. Et là, on retrouve le syndrome de la grenouille.
Alors, syndrome de la grenouille, vous y viendrez, juste je voudrais que vous nous parliez aussi. Dans votre livre, vous faites une analyse plus large, vous laissez entendre qu'en fait, derrière, on serait, malgré nous, quand on a une petite ou une grande addiction, utilisez des mots forts, hein, comme ça dans votre premier chapitre, je crois que vous commencez en disant, voilà, nous sommes des toxicomanes sans drogue, comme le dit le médecin psychanalyste, sommes-nous, pardon, quand même, il y a le mode interrogatif, le médecin psychanalyste autrichien Otto Fenichel. Vous laissez entendre qu'en fait, derrière ça, on serait le jouet de quelque part de plus grand que nous. Vous citez, entre autres, beaucoup Jacques Ellul, un système technicien. Je le disais avec mes mots en introduction. On serait, en fait, malgré nous, sans nous en rendre compte, quelque part un peu les esclaves d'un paradigme technocratique. Vous reprenez aussi les termes du pape François. Bref, d'une idéologie libérale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que l'idéologie libérale, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit des consommateurs. Pour être des consommateurs, il faut maintenir la personne dans un état d'agitation permanente au niveau des passions. Bon. Et en étant au niveau des passions, on n'est pas uni à notre être profond, on devient un être agité. Donc il y a une sorte de collusion, d'accord tacite entre le monde des technologies et l'hyperlibéralisme, pour maintenir les personnes dans un état d'excitation permanente. C'est ce que dit le grand sociologue anglais Zygmunt Bauman, qui dit, voilà, l'anxiété, le monde libéral, le monde de la vente, veut susciter en nous une anxiété permanente pour qu'on soit toujours en quête d'avoir plus. Alors que la construction intégrale de la personne, c'est pas avoir plus, c'est être plus. C'est être plus. C'est être uni à sa personne entièrement, corps, âme, esprit, relation, et non pas simplement dans une agitation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une agitation flottante dans l'air. Au lieu de penser, les gens réagissent. Et en réagissant, on se compare, et en se comparant, on se fatigue, il y a une spirale, et puis le directeur du conseil d'administration d'Alphabet, qui est le Google, bon, c'est l'entreprise matrice de Google, dit ouais, on est capable de faire penser les gens comme on veut, c'est un jeu.
C'est-à-dire ?
C'est un jeu. C'est-à-dire que à force de micro-induction, par exemple, au niveau des publicités, on va finalement être saisi par les messages, les slogans. Donc la tactique des leaders sur les réseaux sociaux, ça va être qu'on passe le maximum de temps sur le réseau social pour qu'il nous fasse passer le maximum de publicité, qu'il nous pique le maximum de data, et après qu'ils adaptent les pubs à notre manière ils nous connaissent, donc ils vont faire des pubs adaptées. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, si on rentre dans la boucle, on n'en sort pas. Et là, c'est là où on retrouve l'idée centrale de Jacques Ellul, du filet technicien. On est dans le filet.
Tanguy-Marie Pouguia, vous commencez l'émission en disant que pour vous, quelque part, le point de départ de votre réflexion, ça a été de vous rendre compte que les écrans étaient même arrivés dans les cellules des religieux, preuve qu'il y a une forme d'envahissement. Vous êtes donc aussi prêtre donc, et religieux, donc dans ce cadre-là, vous accompagnez un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que vous pourriez dire des dommages collatéraux quand ils sont graves, cet envahissement des écrans, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ou à quels extrêmes ça peut mener si vous deviez prendre des exemples ?
D'abord, ça disperse. Vous savez, le syndrome de la déconstruction de la personne, Pascal disait, c'est le divertissement. Voilà. Entre le divertissement et la dispersion de l'esprit, l'esprit n'est plus attentif. Il est moins concentré. Oui. Donc il y a une sorte de déconstruction qui se fait et on ne la voit pas venir immédiatement entre la concentration, l'attention, l'intention. L'esprit va un peu dans tous les sens, il flotte sur des données superficielles, il est plus présent à ce qu'il fait, même plus présent à l'être en profondeur, et il n'est pas mu par une intention profonde. Les pédagogues, c'est pas simplement lié pour la vie religieuse, hein, c'est lié pour tout l'accompagnement des enfants, mais aussi des adultes. Cette intention profonde, cette attention profonde, des concentrations profondes, est largement en baisse. C'est ce qu'on appelle le syndrome aussi du poisson rouge, c'est-à-dire les annonceurs ont montré qu'en l'espace de 15 ans, les jeunes ont perdu 33% d'attention devant une image. Ils sont obligés de zapper. C'est-à-dire qu'on perd son temps. Alors, ils mettent le poisson rouge parce qu'ils ont comparé l'attention d'un poisson rouge par rapport à un enfant et que l'enfant resterait devant une publicité moins longtemps, 8 secondes, alors que le poisson rouge resterait 9 secondes. C'est une image, bien sûr. C'est pour montrer qu'en tout cas, les enfants sont passés en 15 ans de 12 secondes à 8 secondes. Donc, c'est le zapping. Et on zappe tous. On zappe tous, c'est le zapping sur les petites vidéos, c'est le zapping.
Mais à vous entendre, ça mène à un zapping plus grave, qui est qu'on n'a pas forcément donc, une vraie attention à ce qu'on est, aux autres. Et donc, on finit. Qu'est-ce que vous appelez cette écranisation, on va dire, des esprits ? C'est-à-dire qu'à la longue, presque entre moi et le monde et les autres, il finit par y avoir forcément un écran. Pourquoi est-ce que c'est si gênant ?
Le mot écran est formidable. L'écran fait écran. C'est ce que dit Jean d'Ormesson, il dit « l'écran, c'est ce qui fait écran ». Et donc, ce qui fait écran à la présence, présence d'autrui, présence de Dieu, présence de son être profond. Donc, ce qui fait écran a une qualité de présence à la vie. Donc, on passe de la présence à la représentation, à l'agitation mentale. Et là, il y a une sorte de déconnexion, en tout cas, entre la pensée et l'être profond. Quand on accompagne les gens, ce qui est mon cas, quand on écoute les personnes, on voit bien cette agitation et la difficulté que les gens même ont à prendre un quart d'heure de silence. Un quart d'heure de silence, c'est ce que dit Thérèse d'Avila, c'est le minimum vital pour son salut. Un quart d'heure de silence.
Par jour.
Par jour. Et on voit bien que beaucoup de gens ont du mal d'être vraiment dans ce quart d'heure où ils ne font rien, ils se laissent faire par la présence de leur être, de leur désir profond et de Dieu, et ils ont besoin de réagir à des informations extérieures, à une agitation extérieure. On voit bien dans la vie spirituelle, l'enjeu, c'est de tourner les sens vers l'intérieur pour qu'ils soient en accord avec la grâce, les inclinations naturelles, la vie profonde, le calme, le silence.
Peut-on y voir un combat plus grand que l'homme, quelque part, un combat spirituel? J'ai souvenir de cette phrase fort connue là, de Bernanos, « Le monde moderne, je crois, est une conspiration contre l'intériorité ».
Voilà.
Est-ce que c'est derrière ces GAFA, ces écrans qui sont jusque dans notre lit? Est-ce que dans le fond, il y a un combat spirituel derrière? On
en
peut
tout
aller
cas,
jusque-là.
Il y a un combat anthropologique qui détermine le combat spirituel. Anthropologique, c'est-à-dire la vision de l'homme. Les GAFA et autres technocrates néo-transhumanistes qui sont ouverts à la surinflation de la technique, ils ont une conception matérialiste de l'homme. L'homme, c'est du corps, c'est des émotions, et puis ça évolue dans l'histoire, dans un darwinisme technocratique. Voilà. C'est pas la vision de la personne que corrobore, que développe un personnalisme chrétien ou un personnalisme communautaire. Classique, c'est non, l'homme c'est corps, âme, esprit, relation. Et on voit bien cette collusion entre le monde des technologies, les hyper-technologies, le monde libéral, c'est de nous maintenir dans un état d'agitation permanent. Avec ce glissement un petit peu inquiétant, jusqu'à maintenant c'était le robot qui nous suivait, maintenant c'est nous qui suivons le robot. Et le robot devient comme une cause exemplaire, devient un modèle d'efficacité. Non. C'est pas un modèle d'efficacité. La vie, c'est pas d'abord une efficacité, une rapidité. La vie, c'est d'abord une qualité de présence à la vie.
Hyper connecté et libre, c'est le titre de votre livre, paru aux éditions des Béatitudes. On fait une pause et on vous retrouve.
L'automne viendra jaunir nos espérances, parce que l'hiver déjà engourdit vos semences. Alors parce que c'est beau, parce que j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux, parce que le temps assis fait éclore les escarres, parce que le temps rassis engraisse la mémoire, parce que la déchirure, trop longtemps camouflée, s'est transformée en mur de religiosité. À trop vouloir exister dans un corps trop petit, on oublie qu'exister brise les interdits. Alors parce que c'est beau, j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux. Le soleil brûle au fond de l'eau, sa lumière plisse un peu mes yeux, le vent salé sèche ma peau, je pars et je me sens mieux. Depuis l'aurore, le ciel est azuré de rêves, parce que l'île au trésor est au bout de la grève, parce que sans crier gare, les roses sont tombées, parce que tous les ardent, parce que tout est piégé. J'irai loin de vos guerres, vos drapeaux vomissants, rechercher la lumière dont vous me parliez tant. Parce que c'est beau, parce que j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux. Et puis parce que c'est mort, parce que j'aime encore la vie, parce que beaucoup sont morts d'être restés ici. Je pars et je me sens mieux.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Être libre à l'heure du monde des écrans, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour ceux qui nous rejoindraient pour rappel comme invité Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et auteur donc d'un ouvrage appelé « Hyper connecté et libre ». Tanguy-Marie Pouliquin, vous avez un autre chapitre où vous parlez cette fois du corps, et ce presque dès le début du livre. Pour un chrétien, ça ne surprendra pas, mais ça demande peut-être quelques explications. Et alors, il y a une première chose que vous dites, ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça, pour une fois je vais parler de moi. Vous dites « les écrans pompent l'énergie du corps ». En fait, c'est crevant d'être assis et d'être derrière un écran. Et pourquoi ?
Ah oui, parce que ça mobilise notre cerveau en permanence, et ça, voilà, ça nous bouffe de l'énergie. Voilà. Et sous-entendu, le cerveau, si on veut simplifier, traite une information en 4 secondes. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est surinformé. Donc, en gros, il y a des informations en traitement d'attente, en permanence. Comme on lance une impression, et puis à l'imprimante, il y a des fichiers en attente d'impression. Eh bien, notre cerveau, il est en attente permanent de traitement d'informations. Et ça, c'est épuisant, parce que même après, lorsqu'on arrête d'être devant l'écran, le cerveau, il doit traiter les informations. Et ça veut dire qu'on est toujours en charge mentale hypertrophiée, et on est toujours en agitation mentale. Passer 15 jours à la plage, au camping, en vacances, sans écran, le cerveau ralentit et il laisse la place à l'ouverture des sens, les sens en connexion avec la nature, les sens en connexion avec l'être profond. Et là, le corps, au lieu d'être soumis au diktat du cerveau, comme un cerveau sans corps, on retrouve son corps. Voilà. Il faut retrouver son corps. Les écrans, on pourrait dire, trop de temps devant l'écran, c'est une logique de désincarnation. On quitte la chair de notre corps.
Alors, vous parlez du cerveau et vous dites, si je vous ai bien lu, en fait, deux choses à propos du cerveau, qu'à la fois, le cerveau est non pas une machine, mais une réalité extraordinaire et d'une puissance incroyable. Je vais vous laisser expliquer à propos de la mémoire, entre autres. Et puis, vous l'expliquez aussi qu'on a une grande plasticité neuronale et que cette dernière, quelque part, à vous lire, nous joue des tours, c'est-à-dire notre cerveau s'écranise. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai compris. Alors, commençons par les qualités du cerveau et après sa plasticité qui peut nous jouer des tours.
Sur les capacités du cerveau, les spécialistes disent qu'actuellement, on a un cerveau qui a autant de capacités de stockage que Internet, que le web. À peu près, c'est équivalent.
Que l'ensemble du web.
Donc, ça,
dites que c'est un pétaoctet.
Un pétaoctet, voilà. Donc, c'est absolument incroyable. Mais c'est pas parce qu'on a une information qu'elle est formatrice en profondeur. Vous voyez, il faut distinguer l'information superficielle, l'information, et puis ce qui va nous former. Le but de la vie, c'est cette transformation. C'est pas parce que on change qu'on change bien, et c'est là où on va retrouver la plasticité neuronale. Ouais, on a une capacité incroyable, et on a une capacité aussi incroyable donc de stockage, mais on a une capacité incroyable d'être influencé par. Et c'est là où on retrouve la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité qu'a notre cerveau de faire des liens, des connexions, alors des connexions de savoir, mais aussi des connexions qui vont déterminer notre manière de regarder le réel, de nous comporter. Sous-entendu, plus on est exposé à une culture des écrans, plus on va ressembler à cette culture. Sauf si on discerne, qu'on a une posture engagée, qu'on sait vraiment ce qu'on veut, ce qu'on recherche, et on se sert des écrans comme un, comme un moyen. Mais si on n'a pas cette distance positive et si on ne travaille pas notre posture par rapport aux écrans, on est influençable.
Pardon,
et
si
ça, les leaders d'opinion le savent. On est influençable par les écrans.
Si vous deviez prendre un exemple concret d'une chose vue ou entendue ou d'une personne rencontrée, par exemple, je sais pas, pendant votre voyage aux États-Unis, quand vous êtes allé visiter les GAFA, ça donne quoi un homme dont le cerveau a été écranisé? Si l'exemple est caricatural, ça donne quoi au final?
Ça donne la réalité du vécu des gens. C'est-à-dire aux États-Unis, les gens par la médiation des écrans reçoivent une information toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, il y a une information. En France, c'est toutes les 4 minutes. Et donc, si on répond toutes les 3 minutes à ces informations qui sont souvent pas essentielles, on est devant son écran, au moins divisu. Après, l'écranisation, elle vient aussi par le formatage de notre esprit, c'est-à-dire que au lieu de réfléchir et de discerner le bien que l'on veut mettre en œuvre, on est constamment en réaction aux informations qu'on reçoit. Donc un cerveau écranisé, on pourrait dire que c'est un cerveau hyper réactif et non pas un cerveau qui discerne les bonnes décisions à prendre pour poursuivre un beau projet, quoi.
Il y a une autre réalité à propos de la santé que vous citez. Certains le connaissent, mais je trouve bon de le dire et de presque de le clamer. L'oreillette du téléphone ne suffit pas. Alors, il y a des encarts un peu partout dans le livre qui font qu'on peut piocher, on peut rentrer dedans. Souvent, c'est des encarts sur des études ou sur des chiffres qui sont courts et pédagogiques. Vous rappelez que l'OMS a classé les ondes des mobiles comme potentiellement cancérogènes pour l'homme. Ça veut dire quoi? Faut en déduire quoi?
À nouveau, vous voyez, c'est la question de la proximité des écrans ou de la culture des écrans sur nous-mêmes. L'oreillette, c'est quasiment invasif. C'est quasiment en nous, c'est au fond de l'oreille, quoi. On prend acte du résultat des études, c'est pas bon pour le corps, hein, mais du point de vue global, du paradigme technocratique, c'est-à-dire de cet équilibre culturel où la technologie est au centre, on voit bien que la distance même de l'objet diminue. Voilà. Maintenant, c'est dans l'oreillette. Demain, ou déjà, ça sera sous-cutané, hein, la puce.
Vous dites déjà parce que...
Oui, parce qu'aux États-Unis, on a le droit de payer avec sa carte bancaire avec une puce sous-cutanée, comme ça, voilà. Voilà. Donc, c'est légal, en tout cas. Tout le monde ne le fait pas, hein, mais c'est légal. Donc, c'est invasif. Et demain, avec les nanotechnologies, toutes ces petites puces à 10 puissance moins 9 mètres, la nanotechnologie, on va vous mettre des puces dans le corps. Pour une médecine préventive, c'est-à-dire dans laquelle tous les matins, vous aurez votre check-up médical et qui vous dira il faut manger ceci, il faut faire un peu plus de sport aujourd'hui. En soi, médicalement, c'est intéressant d'avoir ces informations, sauf que vous êtes relié à une plateforme, c'est une plateforme qui vous dit avec ses algorithmes ce que vous devez faire. Ça, c'est la médecine de demain et c'est très réaliste, ça.
Alors, si on en reste à aujourd'hui, on va essayer quand même de dessiner des pistes, parce que tout au long de votre livre, vous donnez des clés, évidemment, il ne s'agit pas juste de nous assommer, nous aider à nous regarder dans la glace. Pour le corps, vous parlez de deux choses, la malbouffe, et puis la santé qui diminue tout simplement. Si on commence par la malbouffe, quel lien avec les écrans?
C'est que quand on est devant un écran, on ne bouge pas. Et quand on ne bouge pas, on mange plus. Voilà. On mange plus. Par exemple, il y a une étude qui a été faite que quelqu'un qui est devant son écran consomme 73% de nourriture en plus par rapport à celui qui n'est pas devant un écran. C'est une étude qui a été faite, une étude intéressante, c'est-à-dire ceux qui...
Pourquoi il est tellement fasciné qu'il oublie d'arrêter de manger?
Voilà, et il consomme, et non pas, il fait du bien à son corps. La nourriture, c'est pour la santé. Le bien que vise la consommation de nourriture, c'est la santé. Et donc, en gros, il perd la direction du bien. Et là, on est au centre de la problématique. Depuis la révolution industrielle du 18e, 19e, etc., il y a un glissement dans la culture où le centre de la culture n'est plus le bien que l'on cherche, un bien objectif, mais c'est la fascination de la puissance de la technique. Voilà. Et donc le centre de la vie n'est plus une culture du bien, mais une culture de puissance. Et le symptôme le plus évident de sentir cette puissance, c'est la force de la technologie. Et les écrans nous donnent cette puissance. Regarde, par exemple, on prend des ados. 42% des ados se disent dévastés, s'ils quittent le foyer familial sans leur écran.
Dévasté, c'est le mot qu'ils utilisent ?
Voilà, c'est le mot qu'ils utilisent.
Ils avaient le choix entre dévaster autre chose ou ils avaient juste le choix ?
Bah, c'est ce que j'ai noté. C'est pas moi qui ai fait l'enquête.
D'accord.
J'ai fait la synthèse de l'enquête. C'est-à-dire qu'on sent bien l'écran est un prolongement de leur corps. Donc ils perdent quelque chose. Ils sentent que l'écran les fait vivre, leur donne un surcroît d'humanité. Eh bien, ça peut être inquiétant d'arriver à cette situation. En tout cas, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner.
Voilà, vous dites aussi à propos de la baisse d'activité, activité physique, hein, j'entends que ça peut donc avoir une conséquence. Vous dites qu'il faut penser à bouger. Vous citez entre autres une étude qui laisse entendre que les femmes et les hommes font moins d'activité, du coup, chaque jour.
Alors non, surtout les femmes.
Surtout les femmes.
C'est les femmes. Il y a, l'OMS a fait des études intéressantes montrant que, contre toute attente, les femmes en lien avec les écrans bougent moins. Voilà, bougent moins, moins 15% en l'espace de 15 ans. C'est quand même beaucoup. Pour les hommes, c'est non. Les hommes bougent autant. Il n'y a pas de baisse d'activité pour les hommes. Mais pour les femmes, oui. Voilà. Avec tous les effets secondaires que ça peut avoir pour le corps. Parce qu'il faut bouger. Hein. Si on ne bouge pas, voyez, devant un écran, en tout cas, on est sûr que 95% du temps, on ne bouge pas. Et déjà, cette prise de conscience-là, qu'on soit devant la télé, devant une tablette, devant un smartphone, etc. Et donc, si on passe 8h30 par jour devant un écran, c'est 8h30 où le corps ne bouge pas. Il n'y a que le cerveau qui est là. Et donc, il y a une rupture, en tout cas, entre le cerveau et le corps. Ben, prenons soin de notre humanité complète en bougeant, donc en éteignant nos écrans et en marchant une petite heure, une bonne demi-heure par jour. Voilà.
Alors justement, à propos du corps, si vous deviez dessiner des pistes, vous me disiez en souriant, en commençant l'émission, qu'on a de toute façon toujours une solution, c'est d'éteindre, c'est d'arrêter et du coup de faire autre chose. Pour le corps, si on commence par cette réalité, parce que c'est bien chrétien que de commencer par être attentif à son corps, c'est une manière de revenir aussi à la réalité. Qu'est-ce qu'on fait ?
On peut faire des petits conseils.
Attention au sommeil, vous dites.
Oui, pas d'écran une heure avant de se coucher, déjà. Hein. Un premier cycle raté, c'est souvent une mauvaise nuit en perspective. Donc, pas d'écran dans la chambre. Voyez. Moi, je conseille pas d'écran dans la chambre. Voilà. Vérifiez en tout
cas. D'écran dans la chambre, c'est donc pas de smartphone dans la chambre.
Ah, pas de smartphone dans la chambre, pas de télé. Voyez, la chambre, c'est le symbole de ce lieu où on retrouve cette intimité avec soi-même, avec la profondeur de son être, la qualité de relation avec son conjoint. On réinvestit le sens de l'existence, on fait un bilan, donc on est à une dimension plus... voilà. Alors que les écrans, maintenant, les écrans dispersent. Voilà. Le nombre de couples, et de couples, il y en a beaucoup, qui sont au lit ensemble le soir, et chacun devant son écran. Hein. Et ça, c'est pas anecdotique, c'est beaucoup. C'est beaucoup de personnes, voilà. Donc attention à la qualité de relation que nous empêche l'écran, que ce soit avec soi-même, avec Dieu ou avec l'autre.
Alors bien dormir, après bouger, ça veut dire quoi ? Vous vous transformez en prof de step, ça veut dire quoi ? Il faut penser à bouger.
Ah ben, il faut se donner à nouveau une règle de vie. Enfin, une règle de vie, bouger, c'est il faut au minimum bouger une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure par jour, Il faut être en mouvement. Si le corps n'est pas en mouvement, c'est le cerveau qui prend le relais. Donc il faut bouger. Faut bouger. Moi, personnellement, je me donne comme règle au moins une demi-heure, 40 minutes d'exercice par jour. D'exercice. Alors on va marcher. Moi, je fais mon chapelet en marchant, long de la Garonne. C'est très agréable aussi. Mais j'ai besoin. Moi, je suis plutôt un statique, je suis plutôt un intellectuel. Voilà. Donc j'ai bien évalué, du moins je crois, les écrans ne me font pas du bien au corps, donc il faut rattraper.
Vous dites aussi qu'il faut s'arrêter régulièrement.
Ah, il faut s'arrêter, oui. Il faut s'arrêter.
Régulièrement, prendre 5 minutes.
Oui, oui, tous les 45 minutes. Voilà. Surtout, regardez, vérifiez que quand vous êtes devant l'écran, vous respirez. Et souvent, la respiration se raccourcit en raison de l'attention ou de la fascination que l'écran suscite sur le psychisme.
Alors, vous dites, à propos de la respiration, pardon, je vous coupe pour compléter votre réponse, vous donnez un autre exercice, vous dites, attention à la posture face à l'écran. C'est-à-dire, en gros, à vous lire, c'est est-ce que je subis l'écran ou est-ce que c'est moi, même dans la posture physique, en fait, qui lead ? Expliquez-nous ça.
Oui, alors, la question de fond, c'est est-ce que c'est moi qui vais à l'écran ou est-ce que c'est l'écran qui vient à moi ? On voit bien que quand c'est l'écran qui vient à moi, pour dire le dos se courbe un petit peu. Voilà, il y a un tonus dans le corps qui s'affaisse. On est comme enfoncé dans son fauteuil quand on est devant la télé, vous voyez. On sent que là, on est dans une bulle. Et là, c'est au plan du corps, on perd une sorte de rectitude, de droiture. Alors que quand on s'en sert vraiment comme un moyen, comme un marteau, comme une visseuse pour être efficace. Voilà, il faut vérifier qu'on a le dos droit, vous voyez, qu'on a les jambes, à nouveau à 90 degrés, qu'on respire, qu'on n'a pas la nuque tout le temps baissée, mais qu'on a la nuque bien, bien droite au niveau de l'écran. Voilà, alors ça évite les problèmes de dos et de cervicales dans la durée. Mais là, on s'est réapproprié son corps devant l'écran. Donc, c'est nous qui menons. C'est nous qui menons, et ce n'est pas l'écran qui nous mène. Voilà.
Hyperconnecté libre, c'est le titre de votre livre, paru aux éditions donc des Béatitudes. On fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Après avoir parlé du corps, on va parler donc de l'esprit, des suites que ça peut avoir sur notre vie intellectuelle, sur notre équilibre personnel. Pardon.
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est. Chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint,
son nom est saint,
il est saint,
il est saint,
son nom est saint,
son nom est saint,
il est saint,
il est saint,
son nom.
Jésus est saint,
il
saint, il est le saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère son nom.
Emmanuel Pella.
Être libre à l'heure du monde des écrans, c'est pour appel le thème de l'émission de ce matin avec Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et auteur donc de ce livre « Hyperconnecté et libre » paru aux éditions des Béatitudes. Tanguy-Marie Pouliquen, il y a une phrase qui revient souvent, vous venez de me la redonner, je m'en souvenais plus au début de l'émission, pourtant Dieu sait si je l'ai lu en parcourant votre livre, parce que ça revient comme une espèce de mantra. Je me suis dit, il fonctionne comme les publicitaires, c'est-à-dire, ou alors comme un pédagogue, éduquer c'est rabâcher.
Pédagogue.
Voilà, dites-la nous.
Alors, c'est que l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans.
Alors, vous avez dit la phrase, mais du coup, derrière j'ai une question. Donc, l'avenir du monde dépend de notre posture face aux écrans. À vous lire, on entend que les choses sont certes graves, mais imaginons qu'on fait un peu de science-fiction. À 20-30 ans, un homme qui ne sait pas freiner dans son rapport aux écrans, une société qui ne sait pas freiner dans son rapport aux écrans, ça pourrait donner quoi, en fait ?
Ben, ça pourrait donner ce que dit Kate Roosevelt, qui est le directeur de la recherche chez Google, c'est-à-dire qu'on va... ce sera une société complètement écranisée, c'est-à-dire qu'il y aura une dématérialisation du corps, notre conscience serait sur les réseaux, c'est-à-dire que la technologie serait rentrée complètement en nous et qu'on serait un être hyper connecté, donc un être augmenté. C'est toute la question du transhumanisme. Voilà. Donc ça, c'est très...
Et ça, on ne joue pas à se faire peur, parce que même si l'un des grands chefs de Google en rêve, avoir sa conscience sur le web, ça paraît...
Oui, ça paraît inimaginable. On pourrait dire on n'y est pas, mais il y a des intérêts commerciaux colossaux, des intérêts politiques. Hein. Actuellement, il ne faut pas... C'est quand même le véritable match qu'il y a actuellement, c'est un match géopolitique entre la Chine et les États-Unis, c'est savoir qui va faire la course en tête au plan de l'avancée des nouvelles technologies. Alors, celui qui aura un saut d'avance, d'où la question de la 5G et autres, sur les autres, avec toutes les données avec, ben, je dirais, mènera le monde, mènera la culture, surtout si les personnes sont tout le temps devant leurs écrans. Donc, à l'avenir, si on n'a pas un rapport critique par rapport à tout ça, eh ben, la technique va rentrer en nous, dans notre corps. Et on sera hyper connecté dans le corps.
Alors, vous avez un chapitre sur la santé psychique fragilisée par les écrans. On ne va pas faire un catalogue à la Prévert, mais j'aimerais quand même qu'on cite quelques éléments. Vous dites que ça développe une culture de la vitesse, de l'instantanéité. Je pense que on l'a compris et vous l'avez dit. Un rapport superficiel à la vie, vous l'avez dit aussi. Parfois, plus grave que ça, des troubles du comportement. Voilà, une forme de dépendance, même, vous dites. Dépendance, si on s'arrête juste sur ce mot. Ce matin, Isabelle O'Neill, la journaliste de La Matinale, me disait « Oui, mais enfin, voilà, un téléphone, quand même, il y a un côté addictif, quand même. » Elle disait ça, évidemment, en riant, et puis pour me donner la répartie. Mais l'addiction, c'est à partir de quand ? Ça vient si vite que ça ? C'est pas que les gens qui sont addicts aux sites porno ou aux jeux vidéo ?
Non, l'addiction, ça concerne pas simplement les transgressions éthiques. L'addiction, c'est quand on n'arrive plus à s'arrêter. D'ailleurs, le livre est construit sur, à la fin de chaque chapitre, des tests. Alors, on peut... voilà. Donc on
très simple, prendre... d'ailleurs. Hein.
Oui, on peut prendre des tests très simples. Le test qui concerne, par exemple, la santé psychique, c'est Est-ce que vous passez plus de temps connecté sur Internet que vous l'auriez pensé initialement? Donc à un moment, est-ce qu'on est emmené au-delà de notre choix initial? Est-ce que cela vous dérange de limiter votre temps sur Internet? Est-ce que des amis ou des membres de votre famille se sont plaints du temps que vous passez sur Internet? Donc l'impact sur les relations sociales. Est-ce que vous trouvez difficile de ne pas être connecté à Internet pendant plusieurs jours? Est-ce que le rendement de votre travail professionnel ou vos relations personnelles ont souffert à cause du temps que vous passez sur Internet? Est-ce qu'il y a des zones d'Internet, des sites particuliers que vous trouvez difficiles à éviter? Est-ce que vous avez du mal à contrôler l'impulsion d'acheter des produits ou des services en étant en relation avec Internet? Avez-vous essayé sans succès d'écourter l'usage d'Internet? Est-ce que vous déviez beaucoup de vos champs d'action et de satisfaction à cause d'Internet? Vous commencez sur un sujet et vous finissez par autre chose. Voilà. Vous voyez, c'est tous ces glissements. Donc c'est autant de critères. Et tout au long de l'ouvrage, soit pour le corps, le psychisme, l'esprit, les relations, ça permet de s'évaluer. Et à nouveau, vous voyez, de réinvestir sa posture. L'avenir du monde dépend de notre posture devant l'écran. Donc si on fait un bon état des lieux, et qu'on réinvestisse ses motivations de vivre, et qu'on sait en gros ce qu'on cherche, pour autant qu'on a une marge de manœuvre réelle à ce moment-là, c'est pas tant les écrans qui nous mènent, c'est nous qui les menons, et ils peuvent être des super moyens, notamment pour l'organisation. Enfin, pour l'organisation, c'est un accélérateur formidable de temps.
C'est un accélérateur de temps. Alors, vous parlez aussi de la dépression. On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais qui, chez les jeunes, ça peut avoir des conséquences donc, oui. Sur la santé psychique.
Oui, je voudrais dire un chiffre quand même sur un chiffre qui est très intéressant sur les ados américains. Une étude très sérieuse de Jane Twenge, une grande psychosociologue américaine, qui dit que le taux de dépression, de suicide de la génération Z entre 2015 et 2020, a augmenté de 42%. Et elle, c'est sa position, elle fait le lien avec le monde des écrans, cette génération Z, donc la dernière génération, ceux qui sont nés après 1995, ils sont nés dans le monde des écrans, ils ont grandi dans le monde des écrans. Et elle met en évidence qu'il y a une baisse de relations réelles au sein de cette génération et qu'ils vivent à travers ce qu'elle appelle l'expérience d'Internet. C'est l'expérience d'Internet qui médiatise leur...
Et de goût aussi, si je me souviens bien. Et de goût pour ces relations réelles.
Oui, pour le goût. Et puis, même, ça arrive à des conclusions qui peuvent peut-être, dans un premier temps, rassurer les mamans. C'est-à-dire, ouais, ils ont moins de... Ils sortent moins au cinéma avec leurs copines. Ils font moins l'amour avec plus tôt, etc. Donc, ils sont dans des relations plus imaginaire, plus qui engage l'imagination que plus qui engage la relation directe, à la différence de la génération Y ou de la génération X, 25 ans avant, etc. Donc il y a un glissement qui s'opère entre les écrans, à cause des écrans, et sur les relations. Voilà, et donc... je trouve que c'est très intéressant de faire ce lien, entre, alors que c'est l'expérience, quels vont être les antidotes, c'est d'inviter les jeunes à faire des expériences sans écran, c'est-à-dire de la nature, faire des expériences de groupe, des groupes de jeunes, par exemple le scoutisme et autres, où on passe. Donc au plan éducatif, c'est qu'il faut que l'expérience, que le jeune se dise, j'ai été vraiment heureux sans smartphone. Au moins, il a fait cette expérience. Et après, de lui-même, il va pouvoir travailler sa posture, se réapprendre. Tiens, je suis plus heureux sans smartphone. Je suis plus heureux dans une relation qui ne donne pas nécessairement de la place au smartphone. Voilà, je suis plus heureux, tiens. Ben voilà, là on revient au réel.
Tanguy-Marie Pouliquet, on va vous retrouver la semaine prochaine. J'aurais dû le dire au début de l'émission, mes excuses auprès des auditeurs, parce que ce livre est riche, et puis parce qu'on n'a pas abordé tous les aspects, et puis parce que vous donnez aussi des pistes. Là, on va dire, c'était une émission très, très constat, et vous donnez bien des pistes dans votre livre. Vous donnez aussi des interrogations profondes. Il y a un chapitre, par exemple, « Qui suis-je devant mon écran ?» On y reviendra donc la semaine prochaine. Pour finir, on va se faire Un résumé de fin d'émission, vous avez deux schémas, vous avez attiré mon attention, alors les auditeurs ne le voient pas, donc difficile de parler d'un schéma, je compte sur vous. Et si vous deviez nous faire un petit résumé de cette première émission sur les écrans hyper connectés et libres.
Alors, un schéma, ça reprend la logique de fond de notre sujet. Donc, s'opère aujourd'hui une centralité de la présence des écrans au cœur de la vie. Déjà, le temps que l'on passe, 8h30 par jour devant un écran. Les écrans sont au centre. Et ces écrans suscitent d'abord une fascination. Ils attirent. Nous sommes attirés par les images, les informations. Cela a comme conséquence de nous faire de disperser notre esprit, de fuir nos racines, de cette quête objective du bien et de rechercher une forme de puissance. On pourrait même glisser de vouloir, à travers cette puissance appropriée, de prendre parfois même la place du bon Dieu.
Alors juste sur la puissance, vous pouvez vous arrêter, parce que ça c'est un autre thème qui revient souvent. Vous deviez faire une toute petite digression en décrivant ce schéma. La puissance, en l'occurrence, c'est profond justement, vous venez de le dire. La technologie nous donne le sentiment d'avoir la main sur les réels, c'est ça, de pouvoir faire façonner le réel,
d'être à l'origine, nos vies aussi. D'être à l'origine de la création, de la créativité. C'est vrai que ça nous donne une capacité de créativité, d'initiative, mais par glissement, on peut penser qu'en s'appropriant cette puissance, notre posture de vie, on veut prendre la vie. On peut prendre la vie, on peut s'engager dans la vie. Mais le premier mouvement de l'existence, c'est d'abord de recevoir la vie, de la recevoir de notre être profond, de notre désir profond, de la grâce de Dieu, de nos inclinations les plus profondes. Et donc attention au premier mouvement de l'existence, de prendre, parce que la technique, elle objectivise, et en objectivant la réalité, elle réduit. Et elle n'accueille pas le mystère, et on voit bien du point de vue des relations, lorsque c'est l'efficacité, la rapidité, on exige de l'autre des choses, parce qu'on attend un résultat. Alors que la vie nous fait d'abord être contemplatif d'un mystère. Voilà. Et la puissance nous fait quitter le mystère. Voilà. Voilà. Si le mystère n'est pas premier dans notre rapport à l'existence, il y a quelque chose de profond, parce que le mystère au sens chrétien, c'est le sacrement, et le sacrement, c'est la communication de la présence, et la communication de la présence, c'est le sens profond de la joie de vivre, la présence de l'autre, la présence du conjoint, la présence des enfants, la présence de Dieu, la présence à soi-même, voilà. Alors que la puissance, agite cette anxiété et nous fait croire que l'on peut maîtriser, jusqu'à maîtriser les personnes, quoi.
Alors donc là, au centre, il n'y a pas le mystère, il y a donc les écrans. Un, être fasciné par le flux. Deux, disperser son esprit. Après, trois, réagir. Et quatre, être superficiel.
Alors disperser son esprit, en perte de concentration, d'attention, d'intention, agitation permanente, anxiété, sentiment de vide, donc besoin de remplissage. Voilà, une sorte d'avidité. Je vais devant les écrans pour me remplir. Pour me détendre, je regarde une vidéo. Est-ce qu'on est vraiment détendu après regarder 4-5 petites vidéos sur YouTube le soir? Peut-être que le cerveau est un petit peu déconnecté, mais toute la personne, je dirais, ne s'est pas reconnectée. Voilà. Donc, moi, je vous conseille plutôt aller marcher, le silence, et encore mieux, de prier. Trois, la réaction, au lieu de se donner, de savoir quel bien on vise, on réagit. Voilà, d'un point de vue sur les réseaux sociaux, on se compare. On est tout le temps en comparaison. Les psychologues le disent, il n'y a rien de plus fatigant et conduisant à la dépression que la comparaison permanente. Pourquoi on aurait besoin de se comparer? Et quand les ados qui ont besoin d'être affirmés dans leur identité se comparent en permanence, c'est fatigant pour eux. Et en conclusion, le quart, ça conduit à des relations superficielles, des relations à basse fidélité, des discussions numériques à basse intensité.
Relations à basse fidélité, c'est les amis de Facebook. Hein.
Oui, les amis de Facebook, voilà. Et refus, on est dominé ou on est dominant. Voilà, du moins, on est dans un rapport de tension, de dialectique. Alors que la paix des cœurs nous introduit sans écran à des rapports et des relations de communion, de paix intérieure.
Hyperconnecté et libre, c'est donc le titre de votre livre. Bien vivre à l'ère du numérique sans retourner à hashtag l'âge de pierre, paru aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup Tanguy-Marie Pouliquen. Et rendez-vous donc jeudi de la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée... Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast, en site, sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.